l'imagination, puisque j'étais resté là, c'est la foliologie. L'imagination constamment nous empêche de réaliser le jugement d'existence, ceci est. Il faut comprendre que notre imagination, c'est la conséquence, c'est la suite. Elle est une faculté intermédiaire, métaxu. Elle est une faculté intermédiaire. Elle est normalement au service de l'intelligence. L'intelligence n'agit pas tout de suite sur les sens externes. Il y a l'imagination entre deux. Et l'imagination peut, par le fait même, puisqu'elle n'a pas le contact direct avec la réalité, vivre uniquement des sensibles communs. Parce que ce sont les sensibles communs qui peuvent alimenter l'imagination. Les sensibles propres n'alimentent pas l'imagination. Les sensibles communs, c'est le point de vue, la quantité. Hein. C'est tout ce qui est lié à la quantité. Alors, tous les sensibles sont liés à la quantité. Ils rejoignent le sujet par la quantité. Et la quantité, c'est le divisible. La quantité est mise en pleine lumière dans le domaine des mathématiques. Les mathématiques développent la quantité. Les mathématiques abstraient des sensibles propres. C'est pour cela que dans le monde moderne, les sensibles propres passent au bleu par le point de vue imaginatif. Alors c'est très curieux, ce serait pour essayer de saisir l'art du cinéma. Les arts sont liés au sens externe. L'imagination alimente le cinéma, qui remplace tous les arts au niveau du sensible commun. Je vous donne ça pour y réfléchir, hein, parce que c'est quand même très intéressant de saisir que représente l'art du cinéma, à la différence des grands arts. Et tous les arts proprement dits, antérieurs au cinéma, sont des arts qui sont en communion avec les sensibles propres. Et l'imagination sert et ça développe et agrandissent tous les sensibles communs. Les sensibles propres ne peuvent pas être agrandis. Ils sont quelque chose de très particulier, d'unique. Et c'est très intéressant à essayer de comprendre comment l'art du cinéma est un art second. Il utilise tous les arts, mais il utilise tous en vue du cinéma. ça qu'au fond, la vérité dans l'art du cinéma est toute différente que la vérité dans les autres arts. C'est toujours très intéressant de parler à un artiste qui fait des films. Et vous voyez bien que ce n'est pas du tout le même qu'un peintre, qu'un sculpteur, que l'art du théâtre. L'art du théâtre a un réalisme autrement plus grand que le cinéma. Or, dans la culture moderne, le cinéma tend à remplacer les arts. Les arts sensibles propres. Donc il y a là un problème extrêmement important pour la civilisation. Une civilisation qui se construit sur le cinéma est une civilisation qui oublie les sensibles propres. Donc ce serait une civilisation qui restera dans le virtuel. La tendance virtuelle. On m'a raconté cette histoire. C'est une histoire. C'est une histoire vraie. C'est un père qui revenait de captivité, qui n'avait pas vu son fils, donc depuis 3 ans, 4 ans. Son fiston était passé à un âge, était parti enfant tout à fait, et puis commençait à réfléchir un peu. Et son père, pour l'intéresser vis-à-vis de lui, l'invite au grand film qui était fait à ce moment-là sur Jeanne d'Arc. Un film qui venait d'Amérique. Et cet enfant, je crois qu'il avait 7 ans à ce moment-là. Je crois qu'il avait 7 ans. 6, 7, 8, c'est ça, genre. Il l'invite. Et puis lui, tout de suite, de quelques minutes, 5 minutes, papa, il faut partir. Alors, il dit, mais non, on est ici. Pour... Mais ce film, c'est pas vrai. Tout ça, c'est pas vrai. Le père dit, mais c'est sûr, on reconstruit l'histoire de Jeanne d'Arc. Oui, on reconstruit l'histoire de Jeanne d'Arc, mais c'est pas vrai. La réaction de ce gosse, qui n'avait jamais été au cinéma, qui vivait à la campagne, c'est intéressant de voir la différence de l'art proprement dit, et de cet art qui joue un grand rôle dans l'éducation moderne. L'éducation pour former notre imagination. Vous voyez ? Ou la déformer. C'est-à-dire exalter l'imagination. Faire un monde virtuel avec les mathématiques. Il y a là un problème qui serait très intéressant, et c'est un problème de critique, de l'influence du cinéma par rapport à notre jugement de la réalité. L'exaltation du fantasme, de l'image, qui ne rejoint plus le jugement d'existence, qui se coupe du jugement d'existence, et qui se développe pour lui-même. Oui, ça va avec l'exaltation de l'histoire qui repose sur les documents et pas sur la réalité. Puisque la réalité passée, je ne peux pas l'atteindre en dehors des documents. Or, l'histoire, uniquement, reste document. À la place du jugement d'existence, ceci est, qui font la philosophie, vous avez ce jugement d'un document. Il a été témoigné, cet homme a été né telle date, document, à la mairie, à le témoignage. Le jugement d'existence, ça ne peut pas être autrement. Hein. Le jugement d'existence du passé et de l'existence du passé se fait par l'intermédiaire du témoignage, le métaxu. Vous ne pouvez pas rejoindre le passé. Le passé, il est passé. Mais vous rejoignez le témoignage. Alors, quel genre d'existence ? Mais je crois que la critique consiste à réfléchir là-dessus pour bien comprendre la différence entre le jugement d'existence ceci et où vous touchez l'être. Par le document, vous ne touchez pas l'être. Vous touchez l'autorité de quelqu'un qui témoigne que cet individu a existé à cet endroit, qui a eu telle ou telle chose, un témoignage. C'est très important pour comprendre comment l'histoire ne peut pas vous conduire à la sagesse. Et c'est très intéressant de voir comment l'art véritable éduque et l'art vient compléter la prudence, tandis que le cinéma vous mène à une culture qui est en dehors des sensibles propres. Et c'est les sensibles communs qui dominent. Vous voyez, les deux, c'est ça qui est très curieux. Il y a une complicité tacite, mais une complicité qu'on doit comprendre, qu'on doit connaître, entre l'éducation mathématique, l'éducation de la sensibilité dans le cinéma. Puisque des deux côtés, les sensibles pensent fils. Et la dernière complicité, elle est freudienne. Freud, en psychanalyse, confond les sensibles propres et les sensibles communs. Et ramène tout aux sensibles communs. Et le monde est éduqué comme ça. Donc, on va vers une civilisation où il n'y aura plus que les sensibles communs. Alors, voyez cela, la conséquence pour la foi, entre parenthèses, et puis de la philosophie. Et comme nous sommes chrétiens, nous devons aller jusque-là. La foi, elle, vous allez dire, ah, la foi, elle repose aussi sur le témoignage. Donc, elle est comme l'historien. Alors, qu'est-ce que vous allez répondre à ça ? La différence entre le témoignage humain et le témoignage divin. La foi repose sur un témoignage divin et non pas sur un témoignage humain. Historiquement, il n'y a aucune preuve de Jésus-Christ. C'est curieux. Je ne demander à un historien, parce que moi je ne le suis pas, mais j'ai demandé à un, y a-t-il une preuve, une signature de Jésus? Il a écrit sur le sable. La signature de Jésus. Ce serait magnifique. Hein. La signature de Jésus, c'est au fond. Hein. Vous voyez ? Quand on parle du sanctuaire, le sanctuaire, quel genre de témoignage donne le sanctuaire ? En relation avec quelqu'un qui, dans sa foi, est tombé amoureux, vraiment amoureux artistiquement et humainement du sanctuaire. Il a reçu comme une grâce très spéciale, charismatique. Il a vu le sanctuaire exposé. C'est extraordinaire. C'est le seul témoignage direct avec Jésus. C'est la signature du Christ. Qu'est-ce que vous répondriez à celui-là ? Il vous pose la question au point de vue philosophique et au point de vue théologique. D'abord, premièrement, je n'ai pas une certitude de foi que le sanctuaire, c'est le mystère. Linge qui a enveloppé le cadavre du Christ. C'est pas une vérité de foi. Alors, c'est une vérité historique. Tout concourt vers ça. Des quantités de points, c'est très intéressant à étudier, n'est-ce pas ça ? Et ça a été étudié d'une façon très spéciale à un moment donné où le sanctuaire a été mis en grande interrogation. Il y a eu des faussaires, et vraiment des faussaires, qui ont prétendu que le sanctuaire était du 11e siècle. Alors pas du tout scientifiquement, on sait, scientifiquement, autant qu'on peut le savoir, scientifiquement, c'est une vérité scientifique. Pas une vérité de foi. Alors, puisque c'est une vérité scientifique, on devra tenir compte. La science, au point de vue apologétique, ça peut me servir beaucoup. Et le sanctuaire peut évidemment émouvoir énormément notre sensibilité. Il faut le sanctuaire. Quand il était exposé à Turin, mais c'est évident, on ne va pas rester indifférent devant le sanctuaire. C'est quand même un... Tout concourt à ce que le sanctuaire soit vraiment celui du Christ. Tout. Mais ce n'est pas une vérité de foi. Alors, c'est un témoignage, un document. Et le seul document qu'on ait du Christ, comme document. dit, nous n'avons pas de signature du Christ. La tunique du Christ qui existe à Aix-la-Chapelle, la tunique du Christ, vraisemblablement, elle aussi est du Christ, mais elle est gardée sous verre. On a demandé à quelqu'un qui était très spécialiste pour juger et raccommoder les vieux tissus. Je la connaissais, elle est suisse. Et on lui a demandé une consultation vis-à-vis du sanctuaire. Alors, qui est toujours sous vitre gardée. N'a pas été, je crois, regardé depuis des années et des années. Alors, elle l'a regardé, et dans sa main, le sanctuaire s'est filoché, tombé en poussière. Alors, on a vite remis. On a dit, elle a vu qu'on ne pouvait pas. Quelque chose à remettre au sanctuaire, au point de vue, qu'on ne pouvait pas y toucher. Tandis que la tunique du Christ, le sanctuaire, lui, on peut. Pas le même tissu. Bon, c'est des documents. Un document écrit, un document qui est en linge. La tunique du prophète Élie, avec Élisée. Et c'est une. Prophétiquement, il y a sûrement une signification avec Jésus. Nous n'avons rien. Document sur l'existence de Jésus. On a uniquement des écrits qui ne sont pas, qui sont du temps de Jésus par les apôtres, qui disent son existence et ce qu'il a été. Alors évidemment, c'est très précieux, mais comme quelque chose de tangible. C'est historique, vérité historique. Dépasse pas, mais une vérité historique très très importante, puisque dans la connaissance pratique, on n'a pas la même exigence. Il n'y a pas une certitude absolue. Il n'y a pas de certitude absolue. Alors, voyez, au point de vue critique, la distinction entre les sensibles propres et les sensibles communs, c'est très important, puisque le jugement d'existence, ceci est, repose sur un sensible propre, le toucher. Tant que vous n'avez pas touché, vous ne pouvez pas dire ceci est. Je vous ai dit, on parlait beaucoup des soucoupes volantes, ça m'intéressait de regarder ça. Jamais on a dit le toucher. On a dit, on entendait le bruit, on voyait, mais jamais le toucher. Le toucher, c'est l'existence. Donc, le jugement le plus radical, c'est celui qui touche. Et le sens du toucher est le sens de l'existence. Et non pas l'ouïe. Et non pas l'ouïe et non pas la vue. Parce que l'imagination peut beaucoup plus facilement troubler. Tandis que quand nous touchons, c'est C'est important, hein, de comprendre que notre jugement d'existence dépasse l'imagination, corrige l'imagination, ne repose pas sur l'imagination. Il repose directement sur le toucher de la réalité. Alors, nous devons comprendre toutes les formations historiques qui sont faites à partir des documents. C'est très important, mais au point de vue métaphysique, comprenez bien, au point de vue métaphysique, toujours, le jugement par mode de témoignage, par les documents, ne peut pas fonder une métaphysique. C'est l'existence du document, c'est pas l'existence de la personne. Tandis que l'existence de la personne est l'existence d'une réalité autonome. Donc, il faut comprendre, au point de vue critique, la valeur unique du jugement d'existence. Et toute notre philosophie réaliste repose sur le jugement d'existence. Ceci est. Et non pas sur l'existence d'un document. L'existence d'un document fonde l'histoire, et l'histoire ne dépasse pas le document. Donc, je n'ai pas une philosophie de l'être, ce qui est à partir des documents. Je n'ai une philosophie de l'être qu'à partir du toucher, qui touche la réalité existante. Même si cette connaissance de la réalité existante est, j'allais dire, beaucoup plus grossière que le jugement d'existence d'un document. Puisque nous n'avons pas de document d'Adam, c'est embêtant. Nous n'avons pas de document d'Ève. Nous n'avons pas de document de Noé. Je ne sais pas quel est le plus vieux document qu'on a. Ça, on le sait. Mais c'est déjà une civilisation qui est loin de la première. Et c'est pour ça que je ne sais pas l'existence d'Adam, du premier homme. Ce n'est pas métaphysique, ce n'est pas philosophique. Alors, je comprends, on se réfugie devant le jugement « je suis ». Alors, regardons maintenant le jugement « je suis » de l'homme, de la personne humaine. Quelle valeur ce jugement « je suis » comparativement au jugement d'existence « ceci est ». Parce que, de fait, toute philosophie repose ou sur le jugement d'existence ou sur le jugement historique ou sur le jugement, je pense, je réfléchis, je suis. Je crois qu'il n'y a pas d'autre philosophie que philosophie de l'être, jugement d'existence, ceci est. Philosophie du document. La philosophie du document, qu'est-ce qu'elle atteint? Parce que, au point point de vue de l'être. Quelle différence y a-t-il ? Vous voyez ? Parce que le point de départ, c'est très intéressant, mais tout le reste dépend de ça. En référence à ça, au point de vue au point de vue métaphysique, tout jugement métaphysique est en relation avec le jugement d'existence. Tous. Autrement, ce n'est pas un jugement métaphysique. Le jugement Dieu existe est en référence avec le jugement d'existence ceci est. Ça, c'est sûr. Le jugement historique repose sur le document, les plus vieux documents. Et c'est pour ça qu'on aime toujours les plus vieux documents et que l'archéologue cherche définir, saisir des civilisations à partir de ces documents. Alors, vous voyez, ces documents, c'est l'homme qui les a faits. C'est le facere humain. Donc, on peut dire l'homme est passé par là. L'homme a existé et il a réalisé des peintures, il a réalisé des petits objets d'art. Et c'est vrai, je crois que les plus anciens objets d'art sont des objets religieux, je crois. C'est assez intéressant de voir que c'est le point de vue religieux. Et la présence de l'homme. Les peintures des grottes, c'est très ancien, c'est pas ce qu'il y a de plus ancien. Enfin, c'est des objets d'art, c'est-à-dire des objets du facere humain. Et c'est donc à partir de là que je peux saisir la civilisation. C'est donc des philosophies qui reposeront sur la civilisation, le facere humain. Mais qu'ils ne me disent pas ce que c'est que ce facere humain. C'est le document. Le document me donne la présence d'un homme, la présence de quelqu'un. Tandis que le jugement d'existence va beaucoup plus loin. Le jugement d'existence, il est d'une certaine manière au-delà du temps. Le document qui est du facere humain est dans le temps. Et puis, le jugement d'existence, je suis. Alors, le jugement d'existence, je suis, qu'est-ce qu'il atteint ? Si je base une philosophie sur le jugement d'existence, je suis. Le jugement d'existence, je suis, a une supériorité sur le jugement ceci est, une supériorité. C'est qu'il est intime. C'est que il porte sur la personne humaine. Je suis. Et toutes les autres réalités n'existent qu'en fonction de ce jugement personnel. Donc, une philosophie qui se base sur le jugement « je suis » ne pourra pas être une philosophie qui atteint le cosmos, le monde, philosophie de la nature, même philosophie du corps. Je suis dans mon corps, c'est issu, je suis dans mon corps, mais mon corps n'est pas ce que je suis. Je suis, enfin, beaucoup plus loin que mon corps, il atteint, mais le réel que j'atteins dans le je suis, c'est le réel avec mon corps. Quelle différence y a-t-il entre votre je suis, quand vous dites je suis, au fond je pense, donc je suis, je pense. Donc c'est à travers votre pensée que vous atteignez l'être. C'est à travers votre pensée que vous atteignez, que vous existez. C'est donc la pensée qui est avant l'être. À ce point de vue-là, ce que dit Gilson est juste quand il dit que la philosophie européenne, et c'est la même chose pour la philosophie de l'Inde. J'avais demandé au professeur Lacombe, qui était quelqu'un qui connaissait très bien la philosophie de l'Inde, et il me disait, c'est la même chose à l'Inde. Il y a deux courants philosophiques. Il y en a un réaliste et l'autre subjectif.